Les séminaires du Collège de France.
Bienvenue pour ce séminaire. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Emmanuelle Pastor, qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, à la rue d'Assas, mais elle donne aussi des cours au Collège des Bernardins, qui n'est pas trop loin d'ici. Et bah, ça tombe très bien, parce que c'est la grande spécialiste du livre des rois, disons, les premiers chapitres. Oula, autrement, c'est une grande spécialiste Salomon, puisqu'elle a fait sa thèse, donc faut que je vous donne le titre exact. Disons la thèse, je ne sais pas si c'est le même titre pour la thèse et la publication. Donc la publication s'appelle La sagesse mise à la preuve, la visite de la reine de Saba dans le cycle de Salomon, une comparaison entre le texte massorétique et la Septante. Donc là, vous saurez tout sur Salomon et surtout aussi sur les deux Salomon dans le texte grec et dans le texte massorétique. Vous avez compris que c'est un enjeu important. Elle a aussi sorti un livre un peu plus grand public sur Salomon, donc le personnage Salomon, dans la collection Personnages de la Bible, sorti l'année dernière. Donc là, c'est un livre qui est très abordable et qui vous instruira surtout ce qu'on peut savoir ou pas savoir sur le roi Salomon. Donc ça tombe très bien que Emmanuel a accepté de nous parler, puisque parmi les trois rois, c'est Salomon dont je parlerai sans doute le moins dans ce cours, mais on continuera l'année prochaine, donc on va pas trop le négliger. Donc il y a des handouts, comment on dit en français, des exempliers, c'est ça, les exempliers. Voilà, il y a encore deux, trois qui sont là pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas pu se servir. Et sans trop tarder, je vous donne la parole. Donc, comme d'habitude, Emmanuel parlera une petite heure.
D'accord, oui, j'ai prévu une petite heure.
Voilà, et puis ça nous laissera un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, ravie de vous partager un petit peu le fruit de mes recherches sur le roi Salomon, le grand roi Salomon, peut-être le plus connu de tous les rois de la Bible, n'est-ce pas ? Salomon étant le plus prestigieux, le plus connu, celui aussi pour lequel on a développé le plus de chapitres dans le livre des rois. C'est celui dont on parle avec le plus d'extension. C'est aussi celui qui est caractérisé par une exubérance, l'exubérance du récit, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, une sagesse, une intelligence sans limite, des qualités de bâtisseur, de constructeur, des qualités de diplomate, de fin politique sans égal, etc., etc. Et puis, sans oublier, bien sûr, ces 1000 femmes. Tout cela fait que Salomon est très connu. Et en plus, c'est aussi un personnage qui a eu une très grande postérité. Donc là, je vous ai mis autant sur le plan théologique parce que déjà dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est qualifié comme fils de David, certes un titre messianique, mais quand même premier fils de David étant Salomon. Jésus est certainement décrit en des termes proches du roi Salomon, mais bon, ce ne sera pas l'objet aujourd'hui de notre séance. Chez les pères de l'Église aussi, Salomon a une très grande postérité. Là, sa figure est majoritairement au service de celle du Christ, toujours. Et puis, sans compter tous les développements dans les traditions juives sur Salomon, des légendes, beaucoup de légendes, parfois un peu misogynes. Salomon, magicien, exorciste également. Salomon également a une grande postérité dans le christianisme, dans les légendes chrétiennes. En Éthiopie, vous savez, la dynastie des Négus qui se réclamait de l'union de Salomon et de la reine de Saba. Au Moyen-Âge, la grande légende dorée de Jacques de Voragine, là aussi, accorde de très nombreux passages au roi Salomon. Salomon dans le Coran, bref, Salomon, une figure extraordinaire et voilà, qui a été très développée. Mais alors, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt donc de revenir au texte. Je vais vous parler du premier livre des rois. Je ne vais pas vous parler de la figure de Salomon dans le livre des chroniques, cela vient de nous être précisé tout à l'heure. Les chroniques retravaillent la figure de Salomon, mais d'une manière un peu particulière, en ne gardant que l'aspect positif, et puis en mettant l'accent sur des aspects cultuels, en lien avec le temple. On va beaucoup parler du temple, mais dans l'optique du premier livre des rois. Et puis d'autre part, tout ce que je vais vous dire sur donc, l'articulation de ce texte, vous avez donc sur le papier la structure des 11 chapitres qui concernent Salomon, et je pense que ça pourra vous aider à suivre un petit peu mon propos si vous l'avez sous les yeux. Donc je commence par commenter brièvement quelques grandes caractéristiques de ce roi. Donc Salomon, d'abord, c'est évidemment une figure de sagesse. Qui ne connaît pas le récit du songe à Gabaon ? Salomon est tout jeune. Dans ce songe, probablement un rite d'incubation, il parle avec Dieu et Dieu lui dit « Que puis-je te donner ?» Voilà. Salomon répond « Eh bien, je suis bien jeune et inexpérimenté pour gouverner ce grand peuple. » Donne à ton serviteur un cœur qui écoute pour gouverner ce peuple, pour discerner le bien du mal. Donc premier, et vous connaissez l'issue du songe, donc évidemment Dieu félicite Salomon pour cette demande, lui qui n'a demandé ni richesse, ni victoire sur ses ennemis, mais bien un cœur rempli de discernement, et donc Dieu lui dit, eh bien, en plus de tout ce que tu demandes, je vais te donner, moi, la victoire, la paix pour ton royaume et la richesse, bien sûr, et une longue vie. Voilà. Deuxième grand épisode en lien avec la sagesse qui suit immédiatement le songe de Gabaon, c'est le jugement avec ces deux prostituées. Également un grand épisode qu'on connaît bien, où Salomon, grâce à sa sagesse ou son intuition, sa connaissance même des sentiments maternels, va pouvoir trancher cette affaire de qui est l'enfant vivant, de la première ou de la seconde femme. Et à partir de là, tout Israël reconnaît que Salomon est doté d'une sagesse divine. Troisième épisode, un petit passage, quelques versets au chapitre 5, où on nous dit que, à la manière d'un refrain, Dieu donna à Salomon sa sagesse et intelligence, et une ouverture d'esprit autant qu'il y a de sable au bord de la mer. Vous voyez que l'exagération est de mise. La sagesse de Salomon surpassa même la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Donc une incomparabilité. Et puis enfin, un quatrième épisode avec la reine de Saba, au chapitre 10, où la reine parcourt 3000 km pour venir tester, mettre à l'épreuve la sagesse du roi Salomon. Voilà. Premier aspect donc de ce personnage. Second aspect, Salomon est aussi une figure de richesse. On nous dit que Juda et Israël sont prospères sous Salomon, ils sont très nombreux. On avait à manger et à boire, voilà. On nous dit même que le poids d'or qui parvenait à Salomon en une année était de 666 talents d'or, sans compter tout ce qui était amené par les voyageurs et par les autres rois qui offraient leur tribut à Salomon. On nous dit même que toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, tous les objets de la maison de la forêt du Liban en or fin. Rien n'était en argent, on n'en tenait aucun compte au temps du roi Salomon. Voilà. De nouveau, ici, la place est à l'exagération. Voilà. La richesse ou la réussite matérielle, il faut aussi la comprendre dans le contexte de la sagesse. La sagesse, quand on est sage, amène cette réussite matérielle, évidemment. Autre aspect, Salomon figure de fin politique, de fin diplomate. On nous parle de toute l'organisation politique de son royaume. Il était organisé en préfecture et chacun de des préfets ravitaillait la maison du roi. Et on nous donne donc un luxe de détails sur le fonctionnement interne du royaume. Et enfin, le Seigneur a accordé à Salomon le repos à toutes ses frontières. Voilà. De fait, Salomon, Shlomo, son nom est construit sur la racine de la paix, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce qui caractérise donc également son règne. Et enfin, Salomon figure de bâtisseur. Bâtisseur d'abord de villes. Ici, vous avez les grandes villes du royaume d'Israël qui sont citées. Bâtisseur du palais, on nous dit qu'il a fallu 13 ans pour bâtir le palais du roi à Jérusalem, et puis bâtisseur bien sûr du temple, le temple qui va occuper 3 voire 4 chapitres au cœur de ce macro-récit sur Salomon. Alors bien sûr, dire que Salomon est le bâtisseur du temple, c'est aussi une manière de dire qu'il est un roi pieux, qu'il est un roi fidèle à son Dieu, ce Dieu qui l'a gratifié de la sagesse à Gabaon. Et on va voir donc le roi Salomon offrir quantité de sacrifices et d'holocaustes dans ce temple à Jérusalem. Mais déjà apparaît un problème. Je pose un petit peu les jalons et puis ensuite j'essaierai de résoudre les problèmes que je soulève. La chronologie biblique situe cette période de faste sous Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, ce point fait l'objet de sérieuses contestations à la suite notamment des découvertes archéologiques en Israël. Trois points peuvent être soulevés, je vais les mentionner très rapidement, mais ça va nous aider à comprendre pourquoi ce récit est écrit comme il est écrit. D'abord, la ville de Jérusalem au Xe siècle, la présumée époque de Salomon, quel est l'état de cette ville? Deuxièmement, Jérusalem à cette époque peut-elle être la capitale d'un royaume tel que cela est décrit? Et troisièmement, l'idée d'une monarchie unifiée sous David et Salomon. Je vais dire un petit mot là-dessus. D'abord, la ville de Jérusalem au Xe siècle. Les fouilles archéologiques à Jérusalem n'ont pas permis de découvrir une ville aussi impressionnante que telle qu'elle est décrite dans le premier livre des Rois. Le seul souvenir, le plus ancien souvenir, disons, qu'on ait pu découvrir, c'est cette structure à degrés que vous voyez ici sur la photo, mais qui est plutôt du 9e siècle, soit un siècle après Salomon. On ne sait pas très bien à quoi elle servait, d'ailleurs. Et puis, d'autre part, Jérusalem n'aurait pu atteindre les dimensions d'une ville influente, finalement, qu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit deux siècles après Salomon. Vous voyez qu'il y a un décalage déjà donc entre les descriptions faites dans le livre des Rois et la réalité sur le terrain. Le petit plan que vous voyez ici, vous voyez la muraille actuelle de la ville de Jérusalem, enfin la vieille ville, la muraille de Soliman, et puis vous voyez en gris foncé ce qui était la cité de David, donc la partie la plus ancienne de la ville de Jérusalem, avec au sommet le temple, et puis tout en bas, le point 3, c'était la source de Gion, la source de la ville. Jérusalem a-t-elle pu être la capitale d'un royaume? Au Xe siècle, cela est plutôt douteux. D'ailleurs, les villes qui sont mentionnées dans les versets que j'ai pu citer, donc Hatzor, Megiddo, Gezer, d'abord sont des villes du royaume du nord, pas du sud, dont Jérusalem est la capitale. Et puis deuxièmement, Jérusalem n'avait certainement pas l'organisation nécessaire pour contrôler d'autres villes à cette époque. Bon, vous voyez du coup que ça pose plusieurs problèmes. Au temps de Salomon, Jérusalem, à tout casser, c'était une petite cité-état. Mais pas beaucoup plus que ça. Et le troisième point, c'est le point de cette royauté ou monarchie unifiée sous David et Salomon, tel que c'est rapporté dans les livres de Samuel et des Rois. Israël Finkelstein, un grand archéologue, vous avez tous entendu parler de lui, lui a clairement remis en question l'idée d'un royaume unifié sous David et Salomon. D'après lui, on aurait plutôt affaire à une hypothèse où c'est l'idée d'un royaume uni répond à une fidélité idéologique, faire l'unité entre le nord et le sud, une insistance, enfin un point qui va devenir de plus en plus insistant après l'exil et à l'époque perse et même à l'époque hellénistique. Alors pourquoi est-ce que j'ai soulevé tous ces points? C'est d'abord pour souligner le décalage entre les textes et la réalité de l'histoire ou de l'archéologie. Que faut-il en déduire? Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut mesurer donc déjà un écart. Alors au-delà de cet écart, au-delà de cette prétendue gloire salomonienne, ce qui nous intéresse, nous, en tant que lecteurs du texte biblique, c'est de savoir, mais alors pourquoi on a décidé de raconter les choses de cette manière? Si ça ne coïncide pas exactement avec la réalité, pourquoi l'avoir écrit comme ça? Pourquoi avoir embelli la figure de Salomon à ce point? Qu'est-ce que les rédacteurs bibliques ont voulu faire en présentant les choses de cette manière? Quelles sont en fait leurs motivations idéologiques, théologiques? C'est ce qu'on va donc explorer, ce que je vous propose de faire maintenant. Alors, pour ça, déjà un petit point, un récit, un grand récit, donc 11 chapitres qui sont entièrement centrés sur le motif du temple de Jérusalem. C'est sans doute la raison pour laquelle Salomon a droit à autant de chapitres hein, par rapport aux autres rois d'Israël et de Juda. Je vous ai mis ici qu'il y a, alors déjà, 3 chapitres consacrés à la construction du temple, les chapitres 5, pardon, 4 chapitres, 5, 6, 7, 8, et d'autre part, des parallèles importants, notamment entre Salomon et la figure de Josias, qui apparaît un peu plus loin, vers la fin du deuxième livre des Rois. Salomon construit le premier temple, et puis Josias va rénover le temple. Et puis, d'ailleurs, Josias est qualifié, disons que son œuvre de rénovation du temple est qualifiée à la lumière de la construction du temple de Salomon, mais je ne rentre pas tout à fait dans les détails ici. Vous voyez d'ailleurs qu'à la toute fin du livre des Rois, on raconte la destruction de ce temple. Donc, le livre commence par la construction, il termine par la destruction sous les Babyloniens, et puis on ne manque pas de faire allusion à Salomon au chapitre 24 et 25 du livre des Rois. On rappelle hein, que c'était bien Salomon qui avait construit ce temple. Bref, le livre des Rois est encadré, ou plutôt une inclusion est faite autour de la thématique du temple. Alors pourquoi une telle insistance sur la construction du temple? Pourquoi le temple occupe-t-il le cœur non seulement du récit sur Salomon, mais même du livre des Rois, on peut le dire. Probablement parce que le temple constitue la grande préoccupation des écrivains deutéronomistes qui remanient ces textes ou qui donnent forme à cet ensemble de textes. Et cela probablement déjà à l'époque de Josias, au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi plus tard, après l'exil. La thématique du temple reste extrêmement importante. Vous voyez, alors cette théologie deutéronomiste, cette volonté de construire et de montrer qu'il y a un lieu centralisé pour le culte, on le lit déjà en Deutéronome au chapitre 12. Et on nous dit que c'est Yahvé qui a choisi un lieu pour y faire habiter son nom. Un seul sanctuaire donc légitime, le temple de Jérusalem. Et à partir de là, tous les rois, à commencer par Salomon, mais tous les rois dans le livre des Rois seront jugés, jaugés en fonction de ce critère d'orthodoxie cultuelle. Un seul lieu de culte étant le critère. Ensuite, une autre énigme autour de la figure de Salomon, c'est que Salomon a quand même deux visages. Pour l'instant, je n'ai parlé que des aspects positifs du règne de Salomon, mais n'oublions pas que son règne termine quand même assez mal. Au chapitre 11, on nous rapporte comment les 1000 femmes étrangères de Salomon, 700 épouses et 300 concubines, ont éloigné le cœur du roi de Yahvé. On nous dit au chapitre 3 que Salomon aima Yahvé, et on nous dit au chapitre 11 que Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Vous voyez là, du coup, la déchéance du roi qui est racontée à la fin. Et donc la question ce qui surgit là, quand on voit ce double portrait de Salomon, on se demande, mais finalement est-il aussi sage que ce qui nous a été dit? N'est-il pas fou, hein, vu la fin de son règne? C'est vraiment l'ambivalence du personnage qui va devenir très intrigante et qui n'a cessé d'interpeller tous les lecteurs. Et c'est sur cette question de l'ambivalence de ce personnage, de ce Salomon, que je voudrais m'intéresser donc maintenant. Comment se met en place cette ambivalence, ou ce portrait, disons, dédoublé de Salomon? Les 11 chapitres sur Salomon sont construits autour de 4 apparitions divines. Vous le voyez peut-être sur votre feuille. À 4 moments, Dieu va parler en direct à Salomon. Alors, ces 4 apparitions divines, à mon sens, n'indiquent pas une progression dans le péché ou dans la déchéance du roi, mais plutôt des avertissements. Parce que on nous précise quand même au 11e chapitre, au verset 4, que Salomon n'a pas péché avant sa vieillesse. Bon, donc ce n'est pas une progression dans le mal qui est décrite ici, plutôt des avertissements dans ces apparitions. Donc la première apparition, c'est celle donc à Gabaon, le fameux songe, où un petit verset, le verset 14 au chapitre 3, précise la chose suivante. Il y a comme une condition qui est formulée dans le texte. Bon, parce que jusque-là, on lui a dit, c'est très bien, hein, je te donne la sagesse et je te donne même une longue vie et plein de richesses, etc. Mais un petit verset est rajouté, précisant la chose suivante. « Seulement si tu suis mes voies en gardant mes lois et mes commandements, comme a fait ton père David, alors je t'accorderai une longue vie. » Il y a quand même une condition qui est mise. Sa fidélité doit être entièrement fondée sur les lois, les commandements du Seigneur, tels qu'ils ont été révélés à David. Et puis dans une seconde apparition, au chapitre 6, très brève, elle aussi, Dieu lui dit la chose suivante. « Quant à cette maison, ce temple que tu es en train de construire, si tu marches selon mes lois et si tu accomplis mes ordonnances, si tu suis fidèlement mes commandements, alors j'accomplirai ma parole sur toi, celle que j'ai dite à ton père David. » Vous voyez toujours la référence à David et la référence à la fidélité à la loi de Dieu. « Et alors, j'habiterai au milieu des Israélites, je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Là, vous voyez, il y a quand même déjà dans cet avertissement l'idée que Dieu pourrait abandonner son peuple, ce qu'on n'avait pas dans la toute première apparition. Troisième apparition, on est ici au chapitre 9, le temple est construit, donc vous voyez que les apparitions, elles encadrent la construction du temple. Le Seigneur lui dit, alors si tu marches, alors là c'est très développé, si tu marches devant moi comme a fait ton père David, dans l'innocence du cœur et la droiture, si tu agis selon tout ce que je te commande, si tu observes mes lois, mes ordonnances, oui, tout ce vocabulaire de la loi, ce vocabulaire, des préceptes, je maintiendrai pour toujours ton trône royal sur Israël comme je l'ai promis à ton père David. Mais, verset 6, si vous m'abandonnez, si vous n'observez pas les commandements, etc. Si vous allez servir d'autres dieux, alors je retrancherai Israël du pays que je lui ai donné, et ce temple que j'ai consacré à mon nom, je le rejetterai de ma présence. Donc vous voyez ici déjà, les péchés d'Israël sont envisagés. Si vous allez servir d'autres dieux, ce temple disparaîtra. Et de fait, le temple va disparaître avec les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le texte nous offre une réflexion sur les causes qui ont conduit à la destruction du temple au VIe siècle. Et enfin, la quatrième apparition, alors là, c'est la plus négative de toutes, on est au chapitre 11, on vient de nous dire que le grand péché de Salomon, de s'être uni à toutes ces femmes étrangères, parce que tu t'es comporté ainsi, parce que tu n'as pas observé mon alliance, eh bien je vais t'arracher le royaume. Là c'est un fait, ce n'est plus un avertissement, c'est un constat. Voilà ce que Dieu va faire. Bref, le péché de Salomon marque en définitive le commencement de tous les malheurs de la royauté. Et il ne faut pas oublier que le deuxième livre des rois s'achève avec la disparition de la royauté et du temple. Au résultat, on a devant nous un récit qui alterne des prises de position positives par rapport à Salomon et d'autres négatives. Regardons encore une fois alors comment tout cela s'articule. Les prises de position positives. On est dans nos apparitions, la première apparition ici au chapitre 3. Dieu lui disait, parce que tu m'as demandé la sagesse et pas autre chose, mais que tu as demandé pour toi l'écoute du droit. Et là, on a le mot mishpat qui entre en ligne de compte et qui va être très important pour la suite. Un peu plus en avant, tout Israël, c'est à l'issue du jugement avec les deux prostituées, tout Israël apprend le jugement, le mishpat, qu'avait rendu le roi. Et ils révérèrent le roi parce qu'ils virent qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre le droit, mishpat. On insiste sur ce vocabulaire judiciaire. Et puis dans l'épisode de la reine de Saba, encore une fois, la reine, c'est l'étrangère qui bénit Yahvé, le Dieu d'Israël, parce qu'il a aimé Israël, parce qu'il a établi Salomon roi. Pourquoi ? Pour exercer le droit, Mishpat, et la justice, Tzedeka. Donc voyez, ces petits refrains positifs emploient un vocabulaire judiciaire pour lier la sagesse à l'exercice du droit et de la justice. Et puis les passages négatifs, parce que c'est cela qui va créer un portrait dédoublé de Salomon et ambigu de Salomon. Les passages négatifs. Eh bien, c'est là où il y a ces fameux conditionnels. Si tu suis mes lois, mes commandements, voilà, je vous les ai remis ici. En fait, ici, il s'agit des quatre apparitions où Dieu parle en direct à Salomon. Résultat, on a en fait un long récit sur 11 chapitres qui alterne des passages positifs et des passages négatifs, passages accusateurs et passages qui font l'éloge de Salomon. Si vous regardez bien comment les choses sont construites, je vous ai mis du bleu et du rouge, ça permet de comprendre un petit peu, de voir que l'articulation n'a pas été, à mon avis, faite au hasard. On commence avec le don de la sagesse à Gabaon, puis ça se termine au chapitre 11, c'est le dernier mot sur Salomon. Ce dont finalement on garde le dernier souvenir sur Salomon, c'est sa notice nécrologique, et là on ne mentionne que sa sagesse. Là on ne fait pas du tout mention des problèmes. Et puis ensuite, vous avez, voyez chapitre 3 vers chapitre 11 qui sont mis en lien, en écho, de manière concentrique, où il est question des conditions données par Dieu à condition d'observer ma loi, je serai avec toi. Vous voyez ce ton conditionnel. Ensuite, à nouveau, la mention de la sagesse, démonstration de sagesse au chapitre 3, donc c'est le jugement des deux prostituées, qui fait le pendant du chapitre 10, la reine de Saba, là aussi où il est question d'une démonstration de sagesse, soit devant tout le peuple, avec les deux prostituées, soit devant les étrangers, avec la reine de Saba. Et puis au milieu, au chapitre 6 et au chapitre 9, qui encadrent vraiment la fin de la construction du temple, un ton plus conditionnel, plus négatif. Bref, Salomon, quand on voit ça, on se dit, mais le portrait de Salomon, Salomon a vraiment deux visages. Une sorte de Janus de la Bible, si vous voulez. Regardons maintenant ce qu'il y a au centre du récit. Donc au centre, je vous disais, entre les deux apparitions divines, au chapitre 6 et chapitre 9, la construction du temple. Mais alors si on va vraiment dans le détail, au milieu de cette construction du temple, et vous l'avez sur vos feuilles, en fait se trouve finalement pas le temple, mais la maison de la forêt du Liban. Une maison un peu mystérieuse, un palais, disons, que construit Salomon. Et ce qui est important, c'est qu'au cœur de la maison de la forêt du Liban se trouve quoi ? La salle des colonnes et la salle du trône. Et cette salle du trône, vous comprendrez pourquoi elle est si importante et pourquoi je mets l'accent dessus. Cette salle du trône, donc chapitre 7, verset 7, c'est la seule salle qui est décrite avec autant d'insistance, avec un certain détail. On nous dit la salle du trône où il jugerait, où Salomon jugerait, enfin, il n'y a pas de sujet en fait, où il, on ne sait pas qui est il. Gardez ça aussi en mémoire pour tout à l'heure. La salle du trône où il jugerait, la salle du trône où il appliquerait le droit. Et qu'on retrouve, vous voyez, notre vocabulaire judiciaire, faire appliquer le droit et le jugement. Donc on peut se demander pourquoi c'est la salle du trône qui figure au milieu du récit de la construction du temple. Voilà aussi une petite énigme. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors, moi, ce que je vous propose comme interprétation, c'est que d'abord, Salomon, on comprend qu'il est le roi juge par excellence. Il a reçu la sagesse divine pour gouverner le peuple. De plus, on a bien compris que sa sagesse, elle était avant tout de nature judiciaire, c'est-à-dire orientée au gouvernement. Cela avait été dit donc dans le songe à Gabaon, ça avait été répété à l'issue du jugement entre les deux prostituées, ça avait été encore répété dans l'épisode de la reine de Saba. Sa sagesse, elle est au service du gouvernement du peuple. Et puis en même temps, jusque-là, on a aussi compris que Salomon est un juge un peu ambigu, imparfait et pécheur. Mais bon, on peut aller encore plus loin. Et pour aller encore plus loin, il nous faut maintenant commenter le chapitre 8. Chapitre 8 qui contient une grande prière, la prière que donc le temple est construit, c'est la dédicace du temple, et Salomon s'adresse à Dieu devant tout le peuple et élève une prière. C'est une prière qui est extrêmement bien structurée, elle aussi, je n'ai pas le temps de vous donner tout le détail, mais elle est composée de 7 demandes. Qui s'applique à diverses situations, vous les avez là à l'écran, et il y a une progression en fait dans ces demandes, parce que d'abord Salomon dans sa prière évoque l'intercession de Dieu pour un membre du peuple, puis il élargit sa demande au peuple tout entier. Bref, on passe de l'individuel au collectif. Ensuite, la prière concerne un homme d'Israël, puis elle s'élargit à l'étranger. Et donc on passe là du singulier à l'universel. Ensuite, Salomon évoque Israël qui perd une bataille et Israël qui est déporté. Et cela renvoie bien sûr aux vagues de déportation perpétrées par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a une progression dans ces sept demandes. Et à chaque fois, cette prière commence toujours de la même manière, par un petit refrain. Salomon dit à Dieu, écoute et pardonne. Écoute et pardonne. Alors je continue. Un glissement de sens important est introduit dans la prière, parce qu'en fait, dans la prière, on va retrouver le même vocabulaire judiciaire qu'on a eu pour Salomon, concernant soit sa sagesse de manière positive, soit les menaces ou les apparitions divines, le ton plus conditionnel et plus menaçant vis-à-vis de la fidélité ou l'infidélité de Salomon. On va retrouver le même vocabulaire judiciaire dans cette prière, mais cette fois-ci pour qualifier l'agir de Yahvé. L'agir divin. Donc Salomon invoque Yahvé comme le Dieu qui gouverne Israël, le Dieu qui applique le droit. Vous voyez, il y a un glissement parce que jusque-là, on nous parlait de Salomon chargé de faire appliquer le droit et la justice en Israël. Puis dans cette prière, le glissement se fait, ce n'est plus Salomon dont il est question, c'est vraiment Yahvé qui devient le juge, finalement le vrai roi d'Israël. Je vous ai mis ici quelques versets où on voit ce vocabulaire judiciaire apparaître. Salomon qui dit à Dieu « Agis et juge entre tes serviteurs, déclare coupable le méchant, fais retomber sur lui sa conduite, justifie le juste. » Vous voyez, il donne à Dieu le rôle du roi, le rôle du juge. Ou encore, en 8:49, tu écouteras depuis les cieux le lieu où tu résides, leurs prières, leurs supplications, tu rétabliras leurs droits. Hein, on retrouve vraiment ce vocabulaire. Et donc, si vous m'avez bien suivi, ce vocabulaire est employé positivement pour qualifier la sagesse de Salomon, négativement dans les apparitions divines, parce qu'on prépare déjà la fin dramatique de son règne, et au cœur de ces chapitres, dans la prière de consécration du temple, mais cette fois-ci en transposant ce vocabulaire sur Dieu. Alors, le résultat auquel on parvient, c'est que finalement, on ne peut pas juste se contenter de dire « Bon, bah, Salomon a deux visages, deux facettes, une négative, une positive. » En fait, on ne peut pas juste lire ce récit pour ou contre Salomon. La prière nous oblige à comprendre le texte sans doute autrement, puisqu'elle recentre le récit sur Yahvé. C'est lui finalement le seul juge et roi d'Israël. Voilà une affirmation très forte. Donc d'une part, la figure de Salomon comme roi est relativisée. Il passe en quelque sorte au second plan dans cette prière et il donne toute l'importance à la souveraineté de Yahvé. Et donc, cette prière introduit, à mon sens, une clé de lecture qui va orienter l'interprétation générale de ces 11 chapitres sur Salomon. Finalement, l'enjeu de ces 11 chapitres, c'est peut-être pas tant ou pas seulement l'évaluation morale positive ou négative du règne de Salomon, mais plutôt le fait de reconnaître Yahvé comme le vrai roi, le vrai juge, le juge ultime d'Israël. Et donc, je reviens à la question de pourquoi la salle du trône figurait au cœur du récit, de la construction du temple. Finalement, parce que cette salle du trône, ou ce il, on ne savait pas qui était ce il qui exerçait le droit dans cette salle du trône, ça n'était pas précisé, ça restait un peu nébuleux, mystérieux. Mais finalement, on pourrait comprendre avec la prière du chapitre 8 qu'il ne s'agit pas seulement de Salomon comme bon gouvernant ou comme gouvernant qui était cité en 7:7, mais cela peut faire tout à fait allusion au Seigneur, à Yahvé, qui lui aussi est qualifié comme ce juge, ce roi, qui, pour le coup, là, est parfaitement fiable, contrairement à Salomon. Donc vous voyez comment la prière du chapitre 8, finalement, apporte une interprétation, enfin, permet une interprétation, enfin, nous permet d'aller plus loin et de sortir de cette sorte d'aporie, ou cette sorte de dialectique d'un Salomon négatif et positif, et puis finalement, c'est très ambigu, puis ça reste ambigu. Et finalement, la prière du chapitre 8 permet de trancher en disant, oui, mais Salomon, certes, est le roi, mais au-dessus du roi, finalement, in fine, le vrai roi, c'est Yahvé, quoi. Et deuxième résultat, c'est que si Yahvé est le vrai roi juge, l'unique roi juge en Israël, alors on comprend aussi pourquoi Salomon est décrit comme un pécheur. Il est à la fois sage, mais aussi pécheur. Il a les deux. Il y a quelque chose peut-être d'une reconnaissance un peu anthropologique, on pourrait dire, qui relève de la condition humaine. Il y a ce petit verset au chapitre 8, verset 46, on est toujours dans la prière du chapitre 8, l'affirmation suivante, dans la bouche de Salomon, « Il n'y a aucun homme qui ne pèche pas ». Oui, c'est Salomon qui le dit, il le dit bien sûr pour lui-même, il le dit pour tout son peuple, voilà. Une sorte de réalisme anthropologique apporté dans cette prière et qui du coup, préfère transférer sur Dieu la véritable royauté. Cela nous dit aussi qu'un pardon divin est possible si on envisage la condition de pécheur de l'homme. Cela nous dit donc qu'il y a de l'espérance, que même après l'exil en Babylonie, même le temple ayant été détruit, même dans cette théologie de théronomiste ou post-deutéronomiste, il y a une espérance. Un pardon possible, donc peut-être une reconstruction possible pour ce premier temple détruit. Alors ça, c'était la première partie de ce que je voulais vous commenter. Donc ça, c'était, disons, la structure narrative des 11 chapitres sur Salomon. Et puis maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, on peut entrer un peu plus en détail dans l'histoire de la rédaction de ces chapitres. Comment en est-on arrivé là ? Peut-être que vous vous dites, voilà, c'est extrêmement complexe comme construction narrative, avec deux fils narratifs, un positif, un négatif, entremêlés, avec au centre le temple, et puis finalement, c'est plus Salomon qui est le personnage principal, mais c'est Yahvé qui devient le personnage principal, le grand roi. Vous vous dites, c'est un peu compliqué tout ça. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Bon, c'est ce que je vais essayer de vous dire. J'espère ne pas vous ennuyer trop avec ces considérations-là. Alors d'abord, on voit bien qu'on est devant un ensemble, 11 chapitres, qui sont un ensemble très composite. Composite autant du point de vue littéraire, c'est-à-dire qu'on a des morceaux de texte là, dans ces 11 chapitres qui proviennent de sources différentes, de genres littéraires différents, mais aussi du point de vue des idées. On a aussi des idées très diversifiées qui sont véhiculées dans ces 11 chapitres. On voit bien que les 11 chapitres ne sont pas sortis de la main d'un écrivain comme ça. Notamment parmi cette diversité d'idées, on a l'idée d'une sagesse d'abord judiciaire, c'est un aspect de la sagesse qui est développé dans ces textes, dans ces chapitres, mais il y a aussi la sagesse comme capacité à résoudre des énigmes, c'est peut-être un peu différent là. Là, celui qui résout des énigmes peut être moins un politique qu'un sage, qu'un mage, vous voyez, qu'un magicien, enfin, il y a un déplacement quand même. La sagesse comme un savoir encyclopédique, c'est un autre aspect de la sagesse qui est évoqué au chapitre 5 notamment, ou encore la sagesse qui doit être subordonnée à la fidélité aux lois et aux commandements du Seigneur. Ah ben oui, là c'est encore tout à fait une autre manière d'envisager la sagesse. Alors comment expliquer et rendre compte de cette diversité à l'intérieur de ces 11 chapitres ? Alors là, je m'appuie sur des grands spécialistes comme Thomas Romer, ici présent, que j'ai eu l'occasion de beaucoup lire, justement, pour retravailler ces choses-là. On peut estimer qu'on a quand même un premier ensemble sur Salomon, disons le noyau le plus ancien de ces chapitres sur Salomon, qui est rédigé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le 7e siècle, c'est le siècle du roi Josias, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce roi Josias qui rénove le temple de Jérusalem. Cela est rapporté au chapitre 24, 22, 23, et plutôt du deuxième livre des rois, et qui fait cela à la manière d'un nouveau Salomon, en quelque sorte. Peut-être Josias avait-il besoin de légitimer son entreprise de rénovation du temple, et pour cela, de faire référence à son ancêtre prestigieux, Salomon, qui, avant lui, avait déjà construit ce temple. Alors, je ne vous lis pas ici tout le détail de ce que j'ai mis à l'écran. Voilà les morceaux de texte, disons, dans ces chapitres qu'on peut estimer être ou remonter au 7e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, le roi Josias joue un rôle important, pas seulement dans ses pour ce qui est de la construction du temple, mais vous avez certainement vu ça dans d'autres cours, mais Josias a aussi un rôle important pour ce qui concerne le livre de Josué. Un beau parallèle est suggéré par les textes entre Josias et la figure de Josué, ici entre Josias et Salomon, ailleurs entre Josias et le roi David. Donc il est très probable que ce soit à la cour de Josias qu'on ait donné une première forme à ces textes. Ensuite, un deuxième état du texte, où on voit là un roi Salomon qui est un roi sage, mais il est sage à condition d'observer les lois et les commandements du Seigneur. Il y a une insistance sur la fidélité à la loi. Et c'est pas tout à fait, ou c'est pas forcément la même théologie ou la même idéologie qui est celle du 7e siècle et qui est donc celle-ci. Voilà, on estime que c'est l'édition de Théronomiste de l'époque néo-babylonienne, donc après l'exil. Donc 100-150 ans après Josias, qui aurait plutôt insufflé ce type d'idées dans cet ensemble. Vous voyez, c'est ce type de phrase, hein, « Si tu marches dans mes voies, en gardant mes lois et mes commandements, alors comme David, alors je prolongerai tes jours. » Autrement dit, ici, ce qui est dit, c'est qu'il ne suffit pas d'être sage, il n'est pas suffisant d'être sage pour être le grand roi. Pour être le grand roi, il faut être fidèle à la loi. La loi révélée à Moïse notamment. Et donc là, on reconnaît qu'on a l'insistance d'une certaine théologie post-exilique qui met l'accent sur la figure de la loi. La loi mosaïque notamment. Ensuite, on a quand même une troisième étape dans le texte, avec l'image d'un roi, cette fois-ci d'un Salomon, qui juge en résolvant des énigmes. C'est un peu une autre étape, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas pareil une sagesse qui sert à gouverner ou une sagesse qui résout des énigmes. Les deux épisodes où Salomon résout des énigmes, c'est les épisodes un peu curieux qui mettent en scène des femmes, les deux femmes prostituées et puis la reine de Saba. Et vous remarquez que ce sont des femmes quand même curieuses, c'est des femmes qui relèvent de l'étrangeté. Les prostituées, parce qu'elles ne vivent pas comme tout le monde, elles ne sont pas sous l'autorité d'un mari. Et puis la reine de Saba, c'est la même chose. En fait, déjà, elle est étrangère. Et puis elle aussi, elle jouit d'une autonomie peu commune, disons, selon les habitudes de nos écrivains bibliques. Donc des personnages un peu particuliers, où Salomon réussit parfaitement à déjouer les ruses, en quelque sorte, parce que la femme, la prostituée dans la Bible, c'est celle dont on se méfie. De fait, ces deux femmes arrivent avec un enfant mort, un enfant vivant. Comment voulez-vous trancher? Il n'y a pas de témoin, mais comment s'en sortir? On est vraiment devant un problème insoluble. Hein. Mais Salomon réussit à déjouer, à résoudre le problème. Et même chose avec la reine de Saba, hein, qui arrive avec toutes ses énigmes, et on nous dit que Salomon les résout toutes les unes après les autres sans aucune difficulté. Là, on est devant des récits qui relèvent d'un aspect merveilleux, d'un aspect féerique, qui contraste totalement avec la théologie deutéronomiste que je viens de commenter. Donc on a probablement là le signe que ces deux récits, le jugement et la reine de Saba, ont été ajoutés après coup, en fait, dans cet ensemble sur Salomon. Sans compter que ces deux récits interrompent la narrative où ils se trouvent, les deux. Voilà, donc on voit bien qu'ils ont gardé la marque d'une interruption. Et enfin, il y a, à mon sens, un dernier alignement qui a été fait sur le vocabulaire du droit. Ce fameux vocabulaire qui a permis d'unifier à la fois les péricopes qui mentionnent la sagesse de Salomon et en la mettant au service du gouvernement. C'est dans la péricope du jugement des deux prostituées, de la reine de Saba, du songe à Gabaon, donc toutes ces péricopes qui traitent de la sagesse, et c'est aussi ce que l'on trouve au centre de la construction du temple, en 7-7, la fameuse salle du trône. On retrouve ce vocabulaire là aussi. Et on le retrouve enfin dans la prière du chapitre 8. C'est comme si on avait voulu harmoniser en quelque sorte l'ensemble autour de ce champ lexical du droit et de la justice. Et avec tout ce que ça comporte comme déplacement, puisque je vous disais que le résultat final du texte qu'on a sous les yeux, c'est qu'on comprend que, dans le fond, le vrai roi, c'est pas Salomon, mais c'est bien Yahvé. Et cette dernière édition, on la situe, je la situe, entre la fin de la période perse, vous voyez, entre 538-450, et à peu près entre là et au plus tard 300-350. Mais pas après. Pourquoi ? Parce que pratiquement ces récits-là, dans cet état-là, se trouvent dans le livre des Chroniques. Donc ils n'ont pas pu être remaniés après, puisque l'état du texte est semblable dans les Chroniques qu'on date à peu près autour de 350. À peu près. Voilà. Combien de temps me reste-t-il ? Quelques minutes encore, j'ai peut-être... j'ai encore 10 minutes. Alors j'ai peut-être juste encore le temps de vous dire un tout petit mot sur cette prière du chapitre 8, avant de conclure. Parce qu'elle va nous permettre de comprendre pourquoi cette dernière étape de la rédaction, donc cette quatrième étape, entre le 5e et le 4e siècle, pourquoi je la situe à ce moment-là. Quand on regarde ce petit extrait, donc c'est toujours la prière de Salomon. Quand les Israélites auront péché contre toi, Salomon parle au futur, à la manière d'un prophète. Il n'y a aucun homme qui ne pêche pas, la fameuse phrase que je vous ai citée tout à l'heure, et que tu te seras fâché contre eux, toi, Seigneur, et que tu les auras livrés aux ennemis, qui les auront déportés dans le pays des ennemis, lointains ou proches. Là, vous voyez que déjà l'allusion est faite à la déportation du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit bien que ce texte est écrit après les événements du 6e siècle. Donc on n'est pas devant quelque chose de très ancien. Eh bien, ils retrouveront leurs esprits dans le pays où ils auront été déportés. Ils se repentiront. Ils te supplieront dans le pays de ceux qui les auront déportés en disant « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons agi méchamment. » Ils reviendront vers toi de tout leur cœur, de tout leur être, dans le pays de leurs ennemis qui les auront déportés. Vous voyez, là, on dirait qu'on est déjà loin de l'époque de la déportation. On a déjà eu le temps de méditer sur la tragédie qu'on a subie. On a déjà eu le temps de faire la lumière sur ce qu'ont été les causes de cette tragédie, notre péché. Bon. Et le texte continue. Donc, alors qu'on sera donc dans ces pays déportés, etc., et qu'on aura pris conscience de notre péché, alors ils te prieront en direction du pays que tu as donné à leur père, en direction de la ville que tu as choisie et du temple que j'ai construit pour ton nom. Et là, vous avez certainement en tête un écho d'un autre texte biblique où il est question de prier en direction de Jérusalem. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Dans un livre prophétique dans la Septante, parmi les écrits dans la Bible massorétique, dans le livre de Daniel, Daniel aussi se met à prier en direction de Jérusalem. Signe que l'on est devant des textes qui sont finalement très tardifs. Et alors Salomon continue et dit « Tu écouteras donc depuis les cieux ». Vous voyez, là aussi, Dieu est maintenant positionné dans les cieux. Là aussi, on est dans une représentation de la présence divine. Certes, on lui construit un temple, mais finalement, le vrai lieu où il réside, ça n'est plus le temple. Vous voyez qu'il y a aussi eu là un déplacement théologique important dans la manière de comprendre, de s'imaginer la présence divine. Donc tu écouteras depuis les cieux le lieu où tu résides, leurs prières et leurs supplications. Tu rétabliras leurs droits. Tu pardonneras leur rébellion à ton peuple qui a péché contre toi, tu leur donneras la compassion de ceux qui les auront déportés et ils les aimeront. » Alors là, ce verset 50, il est très curieux. Salomon prie pour que le peuple puisse pardonner et avoir de la compassion pour les ennemis qui l'ont déporté. Vous voyez, là, on est vraiment très très loin déjà de l'événement de la déportation. Voilà, donc avec tout ça, on comprend qu'on a probablement eu... en tout cas une édition encore assez tardive de ce cycle sur Salomon qui donne forme à cet ensemble. Et je termine avec du coup qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça, avec quoi est-ce qu'on va rester finalement. Donc on a constaté qu'on est devant un macro-récit, alors certes narrativement très bien articulé, mais composé d'éléments très disparates. du point de vue du genre littéraire, des idées qu'il véhicule, mais aussi de la datation. On a vu que ce macro-récit est le résultat de plusieurs interventions rédactionnelles successives dans le temps, qui s'étendent entre le 7e et au moins le 4e siècle. Il y a certainement eu encore quelques retouches après, mais les grands changements ont été faits là. On voit qu'au fil de cette composition, de ce grand récit, des nouvelles idées ont émergé. Et ainsi, les textes bibliques nous permettent d'être témoins de l'évolution d'une pensée sur Dieu, sur l'homme, et même sur la politique, et sur le royaume d'Israël tel qu'on le conçoit. Un royaume réunifié, bien sûr. Sous Salomon, il y a un seul royaume. Là où je voulais en venir, c'est que le livre que nous tenons entre les mains, c'est le fruit d'une pensée critique, c'est le fruit d'une pensée qui est en mouvement. Voilà, la Bible, vous le savez, n'est pas tombée du ciel. Jusqu'au moment où elle a été fixée, disons, elle a subi beaucoup de changements. Donc, premier type de conclusion. Et une deuxième conclusion sur la figure de Salomon. Salomon, à mon sens, est probablement un personnage de l'histoire, mais le récit qui en parle, lui, est largement fictif. Autrement dit, quasiment impossible de remonter à l'exactitude de ce qui concernait ce personnage, avec pour seule ressource les textes. Et Salomon, nous n'avons pas d'autres ressources sur lui que les textes bibliques. Vous savez que c'est un des rois dont on n'a pas de preuves matérielles extra-bibliques en archéologie ou ailleurs le concernant. Donc on est limité finalement par les textes. Donc on a une figure qui est entièrement réélaborée, littérairement et de manière très subtile, vous l'avez compris, dans ces chapitres. Voilà, et puis je me suis permise de vous présenter le petit livre qui est sorti l'an dernier et qui permet, voilà, qui vous permettra peut-être de retrouver certaines idées que je vous ai exposées, pas toutes, mais certaines en partie, et puis d'autres, bien sûr, puisqu'il n'a pas été possible de tout vous dire en une petite heure. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.